Radio France Internationale, il est 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Martin Guez. Administration contre institution. Donald Trump s'en prend à la justice de son propre pays et à ses universités.
La guerre ouverte avec Harvard qui fait beaucoup parler. Harvard trop ouvert sur le monde, trop favorable à la diversité, trop woke selon Trump. Et ce sont les étudiants étrangers qui risquent d'en pâtir. Et pas seulement dans la prestigieuse université du Massachusetts. Reportage à suivre de notre envoyé spécial au Texas où étudiants du monde entier craignent de voir leurs études brutalement s'arrêter.
Dossier à suivre ensuite en Cisjordanie occupée.
Où Israël mène son opération Mur de Fer depuis fin janvier, la plus dure, la plus destructrice dans le territoire depuis le début du siècle, nous dira Abla Jounaïdi, notre reporter qui vient d'entrer de Jenin, camp en grande partie détruit. Les conditions de vie y sont plus que précaires. 200 ans après la reconnaissance de l'indépendance, la France lance une commission pour Haïti, mais n'envisage pas de réparation aux grand dam de la population haïtienne. En Turquie, des journalistes jugés comme des manifestants, accusés d'avoir pris part à des rassemblements illégaux de soutien à Ekrem İmamoğlu, alors qu'il couvrait simplement l'événement. Enfin, lui est de retour après avoir enflammé la Défense Arena il y a 2 ans et le festival Will of Green l'an dernier. Burna Boy est au Stade de France ce soir. Ses fans sont déjà prêts, vous l'entendrez.
Après Donald Trump contre les juges, Donald Trump contre les profs.
Et contre les étudiants, le président républicain en guerre contre le monde académique et en premier lieu contre l'université d'Harvard à qui il a coupé les vivres en supprimant une aide de plus de 2 milliards de dollars au prestigieux établissement. Harvard accusé par Donald Trump de propager haine et imbécilité. L'administration américaine qui menace aussi d'interdire à Harvard d'accueillir des étudiants étrangers déjà malmenés. Des milliers d'entre eux ont vu leur visa révoqué, parfois sans aucune raison. Exemple au Texas, où s'est rendu notre envoyé spécial. Plusieurs centaines d'entre eux voient la suite de leur cursus s'écrire en pointillé. Reportage de Nathan Alvitre.
En grande banlieue de Houston, nous retrouvons Naina. C'est un nom d'emprunt. Cette étudiante indienne de 26 ans est arrivée aux États-Unis il y a 4 ans. Légalement, précise-t-elle. Après avoir décroché un master en ingénierie mécanique, elle travaillait depuis 2 ans pour une entreprise américaine. Dans le cadre de ses études, jusqu'à il y a 10 jours.
J'ai reçu un appel téléphonique m'informant que mon visa était révoqué, ce qui veut dire que mon permis de travail, qui était valable jusqu'à février 2026, est aussi annulé. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que c'était lié à une activité criminelle.
Alors Naina se creuse la tête.
J'ai eu un accident de voiture en 2024. J'ai dû payer $80 d'amende parce que mon permis de conduire était expiré. J'ai fait quelques excès de vitesse et j'ai été condamnée pour un délit mineur à suivre un stage d'éducation civique. Mais la mention a été effacée de mon casier judiciaire.
Matthew Thompson est avocat spécialisé en droit de l'immigration. En 30 ans d'exercice, il n'avait jamais vu ça.
C'est vraiment le chaos. On leur ordonne de quitter le pays pour des histoires d'infractions routières ou pour avoir présenté une fausse carte d'identité. Un étudiant de moins de 21 ans qui veut acheter une bière, par exemple, des choses extrêmement mineures. Et dans au moins 2 cas sur 3, les étudiants ont été arrêtés mais n'ont même pas été condamnés.
Sinaïna est décidé à se battre coûte que coûte pour rester aux États-Unis. De nombreux étudiants étrangers, eux, ont préféré jeter l'éponge. Nathanaël Vitran, Houston, RFI.
Donald Trump face aux institutions et face aux juges, la justice américaine qui menace la Maison-Blanche d'une procédure d'outrage au tribunal. L'administration Trump accusée d'avoir bafoué délibérément des décisions de justice et d'avoir expulsé abusivement certains migrants.
L'armée américaine frappe lourdement le Yémen.
Où les rebelles houthis dressent un nouveau bilan. D'au moins 38 morts, plusieurs secouristes notamment, et plus d'une centaine de blessés lors de frappes sur le port pétrolier de Ras Issa en mer Rouge, des raids revendiqués par Washington. L'armée américaine d'y avoir mené des bombardements ayant abouti à la destruction du port, source économique du pouvoir des houthis, selon les États-Unis.
Très lourd bilan aussi ce matin à Gaza.
Lors de 2 frappes israéliennes distinctes, au moins 15 personnes sont mortes, dont 10 membres d'une même famille, la famille Baraka, tuée près de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Israël qui frappe aussi en Cisjordanie occupée. C'est l'objet de notre dossier ce matin. Et on retrouve notre envoyé spécial, Abla Jounaïdi. Bonjour Abla.
Bonjour.
Abla, vous êtes à Jérusalem, vous êtes de retour de Jenin. L'armée israélienne qui a annoncé avoir tué 2 hommes ce mercredi, membres du groupe armé les Brigades de Jenin.
Oui, 2 hommes ont été supprimés après des échanges de tirs dans cette région plus que jamais quadrillée par l'armée israélienne. Ça s'est passé à Missila, dans une carrière de pierre au sud de Jenin. L'un de ces 2 jeunes hommes était accusé d'avoir tué en janvier dernier un policier et 2 civils israéliens dans un village de Cisjordanie occupé. Un témoin nous raconte.
Je travaille la terre à côté. À 7h du matin, on a été surpris de voir un drone et un hélicoptère, puis des blindés. L'armée a encerclé la zone, puis elle a bombardé du haut de la montagne. Après qu'elle se soit retirée, on est venu voir. Ils ont tiré sur deux jeunes, comme des lapins, avec des drones et des RPG.
Abla, cette opération en cours est la plus longue et la plus destructrice menée par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée depuis le début du siècle. Et elle porte un nom, le nom Mur de Fer, une opération lancée le 21 janvier dernier par Israël.
Elle vise, selon l'armée israélienne, à s'attaquer aux groupes armés présents dans les camps de réfugiés comme celui de Jénine. Conséquence inédite, ce bastion de la lutte armée palestinienne a été vidé de tous ses habitants. J'ai rencontré Sarda dans une ville voisine de Jénine.
L'armée est installée dans notre maison. On vivait dans un immeuble de 4 étages, dans une zone en hauteur. De là, ils peuvent tout voir. Je le sais parce que dans notre fuite, depuis la colline en face, on voit notre maison, aussi nette qu'un drapeau.
Et Abla, le camp de Jénine, dont la population est estimée entre 11 000 et 22 000 habitants, a aussi été partiellement détruit.
Pas de quoi tuer l'esprit du camp pour Osama, qui vit avec sa famille dans un logement provisoire près de Jénine.
Le camp, c'est une chose à part. On est né, on a grandi là-bas, on va y retourner. Et même si c'est impossible, on restera des réfugiés, des enfants du camp. Ce n'est pas une question de lieu, on reconstruira ailleurs et ce sera à nouveau un camp. Ce sont les gens qui font le camp, pas les maisons. Le camp, ce sont les gens autour de toi, l'entraide que tu ne trouves nulle part ailleurs.
Il n'empêche, les plus de 40 000 Palestiniens déplacés depuis janvier des camps de Cisjordanie sont pour la plupart dans une situation précaire d'un point de vue matériel, sanitaire, mais aussi éducatif pour les enfants. Ils ne peuvent même pas compter sur une autorité palestinienne financièrement aux abois pour les aider dans une situation qui risque de durer.
Merci beaucoup. Abla Jounaïdi en direct de Jérusalem sur RFI. La situation en Cisjordanie occupée comme à Gaza, à retrouver sur notre site internet, notamment cet éclairage sur le sort des soignants gazaouis détenus par Israël. L'article d'Amira Swilem, à lire sur RFI.fr.
En Haïti, les habitants demandent dédommagement.
Et ce 200 ans après l'ordonnance du roi de France, Charles X, qui reconnaissait alors l'indépendance d'Haïti, en contrepartie d'une indemnité colossale de 150 millions de francs or. À l'occasion du bicentenaire, le président français, Emmanuel Macron, a lancé un travail de mémoire avec une commission d'historiens. Une commission, mais pas de réparation financière. Et c'est là que le bas blesse, correspondance à Port-au-Prince de Peterson Luxaba.
Dans son discours, Emmanuel Macron reconnaît une injustice historique de la France vis-à-vis d'Haïti en 1825, mais se tait sur la question de la restitution, une démarche que dénonce Rubens Isma, étudiant à l'Université d'État d'Haïti.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille au-delà d'une simple question de reconnaissance. Ça doit prendre la forme d'un dédommagement. Cette soi-disant dette a plombé notre économie. Je pense que le seul mot qu'on aimerait entendre aujourd'hui, c'est le mot restitution.
Un avis partagé par John Mary Auguste, jeune activiste. Si pour lui, le discours d'Emmanuel Macron marque un tournant symbolique, il ne suffit pas à réparer 2 siècles d'injustice.
Le pays a fait une réconciliation durable sans réparation. La France doit aller au-delà du discours. Elle doit prendre ses responsabilités historiques en engageant un processus de réparation, qu'il soit financier, symbolique ou structurel. Cela passe par la restitution des sommes perçues injustement.
De son côté, le Comité national haïtien des réparations et restitutions de l'Université d'État d'Haïti, dans une note publiée ce 17 avril, affirme que Macron a fait un pas dans la bonne direction, mais un très petit pas. Aux yeux du comité, la France ne montre aucune intention d'aborder la problématique de la restitution de manière directe et résolue. La dette de l'indépendance, une question que les Haïtiens semblent loin d'oublier, tant que la France ne fait pas le geste tant attendu, la restitution et réparation. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Nouvelle frappe russe en Ukraine. La ville de Soumy à nouveau visée.
Soumy dévastée, c'était dimanche lors d'un tir de missile qui a fait 35 morts. Cette nuit, la localité du nord ukrainien, proche de la frontière, a encore été frappée lors d'une attaque de drone. Attaque qui a fait un mort et un blessé. Et puis autre attaque à Kharkiv. Une personne est morte, 26 autres ont été blessés. La guerre en Ukraine qui pourrait prendre un nouveau tournant. Donald Trump qui affiche son optimisme concernant les minerais ukrainiens. Un accord sera signé jeudi prochain, avance-t-il. Puis à l'instant, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, nous dit « Nous devons déterminer dans les prochains jours si la paix est faisable en Ukraine ».
Premier procès de manifestants en Turquie, un peu moins d'un mois après l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu.
Et 189 personnes comparaissent aujourd'hui à Istanbul dans deux audiences distinctes. Et parmi les inculpés, Marion, sept journalistes, dont un photographe de l'agence France Presse, assimilés à des protestataires accusés de participer à des rassemblements illégaux. Correspondance à Ankara, Anne Andler.
Pour les ONG qui alertent depuis des années sur l'état de la liberté de la presse en Turquie, c'est un nouveau recul et même un recul majeur. Pour la première fois, des journalistes clairement identifiés comme tels, dans l'exercice de leurs fonctions, ont été emprisonnés sur la base de la loi sur les rassemblements. Certes, ils ont été remis en liberté le 27 mars, après trois jours derrière les barreaux, mais dans le procès qui commence, le parquet a requis jusqu'à trois ans de prison contre eux. Selon l'acte d'accusation, rien ne prouverait que ces journalistes se trouvaient dans les manifestations pour, je cite, exercer des activités journalistiques. Le procureur les accuse d'avoir participé à un rassemblement interdit et de n'avoir pas obéi quand les forces de l'ordre ont ordonné la dispersion de la manifestation. Ces sept journalistes, dont cinq photographes, couvrent pourtant depuis des années ce type de rassemblement et l'actualité de leur pays. Leurs avocats comptent bien démontrer qu'ils faisaient leur métier et souligner le précédent grave que constitue cette affaire pour tous les journalistes en Turquie. Les ONG y voient un moyen d'intimider les médias indépendants alors que des manifestations contre la détention d'Ekrem İmamoğlu continue de se tenir chaque semaine. Anne-Laure Ankara, RFI.
En Europe, la guerre commerciale de Donald Trump continue de faire des remous.
Guerre commerciale qui pourrait prendre fin, selon le président américain, qui s'est dit sûr à 100% qu'un accord sur les droits de douane serait bientôt trouvé avec l'Union européenne. Déclaration faite en marge hier de la visite de la première ministre italienne Giorgia Meloni à Washington. Pour l'instant, la Banque centrale européenne se montre très prudente et sa présidente Christine Lagarde estime que face à l'imprévisible, il faut être agile. La BCE, qui a donc décidé de baisser pour la sixième fois de suite ses taux directeurs de 0,25 points, le voilà à 2,25, une décision qui vise à stimuler la croissance, Nicolas Feldman.
Jusqu'ici, tous les indicateurs sont encore au vert. Une croissance stable, une inflation proche des 2% et un chômage qui continue de baisser. Mais la guerre commerciale lancée par Donald Trump risque de peser sur la zone euro. Les perspectives de croissance sont mauvaises, les marchés fébriles et la confiance dans l'économie s'érode, ce qui n'est jamais bon ni pour les entreprises ni pour les ménages. En abaissant une nouvelle fois ses taux, la BCE espère ainsi créer l'inverse, redonner confiance et stimuler la croissance de la zone euro. Des taux directeurs plus bas, c'est la promesse pour les banques et donc pour les entreprises et les ménages d'emprunter moins cher, ce qui mécaniquement doit favoriser les investissements et la consommation. Mais attention, prévient la présidente de la BCE, Christine Lagarde, car plus que jamais, tout peut changer très vite. C'est pourquoi la Banque Centrale Européenne promet de rester les yeux rivés sur les données économiques, des chiffres qui doivent déterminer réunion par réunion l'orientation de sa politique monétaire.
Explication de Nicolas Feldman du service économie de RFI.
Enfin, Martin, un géant nigérian dans la capitale française, Damini est à Paris.
Eh oui, Burna Boy, prêt à enflammer le Stade de France. Il avait déjà rempli les 45 000 places de la Défense Arena il y a deux ans. Le roi de l'Afrobeat qui s'attaque aux 80 000 places de l'enceinte dionysienne. Le chanteur de 33 ans qui sera le premier artiste africain à s'y produire. Lui qui a explosé en 2019 avec African Giant. Il compte déjà 7 albums au compteur, dont son fan Anna et Sonia, la première, et franco-marocaine, la deuxième, franco-tchadienne. Et les deux sont prêtes pour le grand show, comme elles l'ont dit à Tanita Fallé.
C'est vrai que peut-être ma famille là-bas commençait à écouter, mais globalement comme ça. Et quand je leur ai dit que j'écoutais Burna Boy, ils m'ont dit « Mais comment tu le connais ?» Enfin, c'est un artiste du continent, t'habites à Paris, vous écoutez pas ça? Je dis, bah si, on écoute ça, et même jusqu'aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça rajoute aussi ce côté-là de proximité. Ouais. Les sujets qu'il abordait, c'était des sujets importants de société, de politique, etc. Et je pensais vraiment pas qu'il serait devenu l'African Giant comme il le dit maintenant. Bah, ça me rapproche aussi de mes racines, je trouve, et c'est ça que ça m'apporte.
Ouais, moi totalement, et je trouve qu'avec l'album African Giant, justement, ça a permis à plein de gens d'être plus fiers de leur origine et d'oser l'acclamer haut et fort comme Burna l'a fait en fait.
Feelings been they swing like Django Lover. Now you crash your Ferrari for Lekki Bona.
Voilà, Igboen Chaillot, extrait de Last Last, chanson de clôture habituelle pour Burna Boy. Attendu ce soir au Stade de France, on vous attend, Marion Cazaneuf, tout à l'heure.
Et petite indiscrétion, parce que justement, vous y serez.
On saura tout dans Martin les coulisses. À tout à l'heure, Marion.
À tout à l'heure. Merci Martin, il est 9h15 à Paris, 7h15 en temps universel. On passe à la revue de presse internationale avec vous, Théo Renaudon, à la une. En Haïti, Macron fait un pas, un petit pas, mais un pas important.
Réaction de l'un des principaux journaux du pays, le Nouvelliste, l'Élysée, a publié une déclaration ce jeudi annonçant la création d'une commission franco-haïtienne d'historiens, des chercheurs, pour étudier l'impact de la très lourde indemnité financière imposée par la France à son ancienne colonie en échange de son indépendance.
Emmanuel Macron, pour le moment, ne fait aucune mention d'une éventuelle réparation financière.
Oui, mais les choses n'ont jamais été dites aussi clairement par un officiel français, même si toutes les précautions sont prises pour qu'un mot ne dépasse pas l'autre, réagit le Nouvelliste. Ce n'est pas une invitation avec force de loi, mais elle ouvre une fenêtre plus grande que la dette morale reconnue par le président François Hollande en 2015. Le journal haïtien prévient, attention, une commission par-ci, un comité par-là, l'addition des structures, la multiplication des initiatives, tout cela peut cacher la pauvreté des avancées. Il n'y a pas meilleur moyen de noyer un poisson, un gros poisson, que de créer une commission emmaillotée de bonnes intentions. Fin de citation.
Et quel bilan pour les 100 premiers jours du président libanais ?
La nomination de Joseph Aoun a été un signe d'espoir, de renaissance même, après des mois d'incursions, de bombardements israéliens et des années de crise politique et économique. L'Orient Le Jour titre un président rassembleur, citant un commentateur. Pour une bonne tranche de la population libanaise et pour plusieurs observateurs, Joseph Aoun donne le sentiment d'édifier un État libanais digne de ce nom, dit L'Orient Le Jour. L'impression donnée que l'État peut agir, commente le rédacteur en chef du blog Diwan Mikhail Youn. Le président fait ainsi ouvertement du désarmement du Hezbollah son cheval de bataille. Désarmement qui se fera par le dialogue avec le parti, dit le président Joseph Aoun, loin de toute forme de recours à la force.
Un seul point d'interrogation, selon L'Orient Le Jour, la passivité de Joseph Aoun face aux tensions frontalières.
Aussi bien face à la Syrie qu'avec Israël, préférant les contacts diplomatiques aux affrontements inutiles avec Damas. Concernant les bombardements quotidiens au sud du Liban et le non-retrait complet des troupes israéliennes du territoire en violation de l'accord de cessez-le-feu, le président libanais dit multiplier les contacts diplomatiques sans garantir la souveraineté libanaise, dit L'Orient Le Jour, sans que cela n'ait pour le moment eu le moindre effet.
À la une de la presse américaine, l'histoire d'un homme envoyé par erreur dans une prison salvadorienne par l'administration Trump.
Il s'appelle Kilmar Abrego Garcia. Il est bien né au Salvador, mais cela fait 10 ans qu'il vit aux États-Unis, accusé d'être membre d'un gang. Il a été envoyé avant que son jugement ne soit terminé dans une prison salvadorienne, où il a été placé avec de nombreux criminels. Finalement, sa femme a gagné son procès et la Cour suprême américaine a fait annuler son expulsion. Mais trop tard, les autorités salvadoriennes, alliées de Donald Trump pour le moment, refusent tout rapatriement. Son cas est devenu symbole chez les démocrates américains. Un sénateur du Maryland s'est rendu au Salvador ce jeudi pour lui rendre visite. La photo de la rencontre étant une des sites internet du Washington Post et du New York Times.
La revue de presse internationale signée Théo Renaudon.
RFI Matin.
Pour la première fois, Ukrainiens, Américains et Européens se sont retrouvés autour d'une table pour parler de la guerre en Ukraine. Nous partageons tous la même volonté de paix, a conclu le président français Emmanuel Macron, qui a précisé que ces discussions se poursuivraient la semaine prochaine à Londres. De nouveaux efforts diplomatiques donc, alors que les frappes russes sont quotidiennes en Ukraine. La Russie dénonce aussi régulièrement des attaques de drones ukrainiens dans ces régions frontalières. Anissa El-Jabri s'est rendue à Kropotkine et Krasnodar dans le sud, près de la Crimée. Mais annexé. Reportage.
Victoria, 51 ans, Yekaterina, 32 ans, se serrent l'une contre l'autre sur la banquette d'un café-pâtisserie à la devanture bleu pastel. Les deux amies travaillent ensemble dans une boulangerie de la petite ville ouvrière de Kropotkine. Kropotkine, sa rue, sa statue Lénine, ses 4 usines agroalimentaires étaient jusqu'ici une petite agglomération sans histoire. Sauf que l'autre gros employeur local à une dizaine de kilomètres est une importante station de pompage et de stockage de pétrole du sud de la Russie. Attaquée par des drones ukrainiens une première fois en février, puis le 19 mars dernier. Et cette fois, la population s'en est rendue compte, Yekaterina raconte.
Dans la nuit, vers environ 2h du matin, nous avons été réveillés par un bruit, mais il n'était pas très proche. Et au réveil, nous avons vu les informations locales sur Telegram et Instagram qui parlaient de ce qui s'était passé. Et c'est là que nous avons commencé à réaliser. Vers midi, nous avons vu une colonne de fumée, alors nous sommes allés sur place, tous les habitants de la ville y étaient. Nous avons vu cet immense incendie, comment les sauveteurs et les pompiers se battaient contre le feu. C'était évidemment une image terriblement effrayante.
L'incendie a flambé une semaine, un nuage noir a plané au-dessus de la ville et Victoria pense aussi aux conséquences sur son environnement.
Nous avons vu cette colonne de fumée massive, que c'était si grave. Bien sûr, nous étions inquiets pour l'air que nous respirons. Ça n'est allé nulle part. C'est évidemment resté. Et ça s'est installé sur nos arbres, sur les plantes qui commencent à bourgeonner. En plus, nous sommes en pleine période de plantation des cultures. Donc nous respirons et mangeons cette pollution. Et c'est inévitable.
À Krasnodar, la capitale de la région, les aides en soutien à ce que le Kremlin appelle toujours une opération spéciale étaient nombreux en 2022. Ces signes n'apparaissent plus que sur les tramways de la ville. Dans un jardin, en soirée, Vera raconte que les attaques de drones sont dans toutes les conversations.
La situation est devenue plus alarmante. On voit des hélicoptères dans le ciel, des militaires sur les routes. Tous mes amis en parlent. C'est extrêmement dangereux pour nous ici. Dans la région de Rostov, j'ai aussi beaucoup de proches qui entendent des explosions, qui parlent d'hôpitaux surchargés et qui connaissent des gens qui ont été blessés. En général, la probabilité d'attentats terroristes est élevée. La situation est instable. J'ai des amis qui ont maintenant peur de partir en vacances en Crimée, même s'ils y sont allés avec plaisir pendant de nombreuses années.
Les autorités locales, elles, affirment qu'en Crimée annexée depuis 11 ans, les réservations pour cette saison touristique à venir sont au plus haut. Une affirmation impossible à vérifier de sources indépendantes. Anissel Jabri, Kropotkine, Krasnodar, RFI.
Le reportage international que vous retrouvez, que vous pouvez réécouter sur notre application Pure Radio ou bien sur notre site rfi.fr. Il est 9h22 à Paris, 7h22 en temps universel. Aux États-Unis, à présent, entre deux tweets et des coupes dans le budget fédéral, le milliardaire Elon Musk, proche de Donald Trump, mène un projet déroutant, il serait en train de se constituer une sorte de harem virtuel pour engendrer des légions d'enfants avant l'apocalypse, selon lui. C'est une enquête très sérieuse du Wall Street Journal qui le révèle. Et on retrouve à New York notre correspondante, Carrie Naughton. Vous avez lu cette enquête, Carrie. Qu'est-ce qu'on y apprend ?
Alors, on découvre d'abord que le patron de Tesla et SpaceX est le père d'au moins 14 enfants et qu'il ne veut pas s'arrêter là. Il est obsédé par le taux de natalité en chute aux États-Unis. Il s'est mis en tête de repeupler le pays. Il est, et c'est assez choquant, inquiet de la démographie galopante des pays en développement. Pour repeupler, il a pensé créer une légion de bébés super intelligents et qui de mieux que lui-même pour les engendrer. Car ça, ce n'est pas un secret, il le répète assez souvent, Elon Musk admire son intelligence hors norme.
Et comment compte-t-il s'y prendre ?
À l'origine, il était resté discret sur son modus operandi, sélectionner des femmes au pédigré qui l'attirent, une influenceuse d'extrême droite, une influenceuse de crypto-monnaie ou encore une spécialiste de l'intelligence artificielle, ça c'est la mère de son 14e enfant, et il leur propose une somme plus que confortable pour enfanter ses bébés créés à partir de son sperme. Il leur laisse la tâche de les élever. Il avait proposé par exemple à la mère de son 13e enfant, l'influenceuse conservatrice Ashley Sinclair, 15 millions de dollars et 100 000 dollars par mois de pension alimentaire, de grosses sommes d'argent pour se garantir une grande discrétion.
Mais ça n'a pas marché, Carrie, puisque Ashley Sinclair, justement, a tout déballé sur les réseaux sociaux et elle a ensuite donné des preuves au Wall Street Journal qui signe cette enquête.
La discrétion n'est pas forcément l'apanage des influenceuses du web, étrange qu'Elon Musk n'y ait pas pensé. En tout cas, Ashley Sinclair affirme que cela allait fuiter dans la presse et que du coup, elle avait préféré prendre les devants. Sauf que cela a rendu l'homme le plus riche du monde furieux. Il a même renié le petit Romuald 7 mois, alors qu'un test prouve qu'il en est le père à 99%. Et il a rabaissé la pension alimentaire à $40,000 par mois. Ashley Sinclair a alors été plus loin dans les révélations. Elle a montré des SMS où Musk, obsédé par la procréation, lui propose de faire un deuxième bébé dans la foulée, 2 mois après l'accouchement. Et devant son manque d'élan, il explique qu'il allait se mettre en quête d'autres femmes sur son réseau social X, l'ancien Twitter. Une façon d'appliquer son plan à grande échelle aussi, d'où les expressions « légion » de bébé et « harem virtuel » utilisées par le Wall Street Journal. Elon Musk a rétorqué d'un post sur X, réduisant le quotidien respectable à un tabloïd. Pourtant, avec ce projet qui sent fort l'ego et l'eugénisme, de la part de l'homme le plus riche du monde et devenu omniprésent à la Maison Blanche, on peut se dire que cette histoire a toute sa place dans ses colonnes. Carrie Notton, New York RFI.
RFI 9h25 à Paris, 2 heures de moins en temps universel. La chronique Les Dessous de l'Infox aujourd'hui. On parle de la crise entre le Mali et l'Algérie. Les relations entre les voisins se sont dégradées après la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne à leurs frontières. C'était il y a un peu plus de 2 semaines. Depuis, de nombreuses infox circulent sur les réseaux sociaux, notamment à propos des capacités militaires des deux pays. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Marion.
La dernière rumeur en date affirme à tort que l'armée malienne aurait reçu des avions de combat modernes fabriqués en Russie et aux États-Unis.
Oui, en croire des dizaines de vidéos mensongères qui circulent sur TikTok à ce sujet, l'armée malienne viendrait de recevoir plusieurs modèles du célèbre F-35 américain. Cet avion de combat furtif multirôle de 5e génération figure aujourd'hui parmi les chasseurs les plus performants du monde. Mais en réalité, l'armée malienne ne dispose pas de ce type d'appareil.
Et sur quoi s'appuie cette fausse information ?
Eh bien, tout repose sur une vidéo de 2 minutes dans laquelle on voit un convoi militaire filmé à la sortie d'une autoroute. Rapidement, on constate deux incohérence. D'abord, le convoi ne comporte que des véhicules terrestres, notamment des blindés de reconnaissance de type Fennec. Et puis l'environnement, la végétation, les panneaux de circulation ne correspondent pas au paysage malien.
Alors que montre réellement cette vidéo ?
Alors grâce à une recherche par image inversée, on sait que ces images ont été filmées en Allemagne et diffusées sur YouTube en novembre dernier. La légende parle du 8e bataillon de reconnaissance de Freyung sur la route vers le centre d'entraînement de Kolblitz. On est dans le nord-est du pays. Information que nous avons pu vérifier en géolocalisant précisément la scène grâce à des outils de cartographie satellite comme Google Maps.
Et Grégory, d'autres rumeurs parlent aussi de l'arrivée au Mali de Sukhoi 35, ce sont des chasseurs russes.
Oui, exactement, c'est ce qu'affirme une nouvelle fois à tort plusieurs vidéos vues des centaines de milliers de fois. Le mode opératoire est différent cette fois-ci puisque l'infox repose ici sur le détournement de journaux de médias reconnus. Visuellement, la vidéo est coupée en deux. Sur la partie haute, des images d'un chasseur présenté comme un Sukhoi 35 défilent, mais en réalité, c'est un Eurofighter Typhoon. Sur la partie basse, on y voit cette fois une journaliste en train de présenter un journal télé. Le tout est accompagné d'une voix générée par intelligence artificielle. Écoutez.
Le Mali a acquis le chasseur russe Su-35. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré cet avion de chasse multirôle survolant le ciel malien.
Cette voix synthétique prétend reprendre les propos des journalistes visibles à l'image, sauf qu'en réalité, les extraits utilisés n'ont aucun rapport avec le Mali ou des avions de combat. L'identité de France 24 et d'Africa 24 ont ainsi été usurpées dans le but de crédibiliser la Fox. Mais sur le fond, le Mali ne dispose ni de F-35, ni de Sukhoi 35.
Et qui diffuse cette infox ?
Eh bien, on retrouve différents comptes influents sur TikTok qui désinforment régulièrement sur les capacités militaires des pays du Sahel. Certaines de leurs vidéos atteignent des millions de vues, notamment dans le contexte actuel tendu, on l'a dit, avec l'Algérie. Leurs publications sont constamment reprises par des dizaines de comptes qui propagent ensuite l'infox sur d'autres plateformes. On peut citer notamment Facebook et WhatsApp.
Grégory Genevrier pour la chronique Les Dessous de l'Infox. Vous revenez dans Les Dessous de la Fox, le magazine cette fois, tout à l'heure à 17h30, temps universel. Ce sera avec Sophie Malibeauf dans un peu plus d'une minute maintenant. L'actualité africaine sur RFI.
Appel sur l'actualité. Libre antenne, Namoury Dosso.
RFI vous donne la parole où que vous soyez à travers le monde. Rejoignez-nous et lancez le débat sur l'actualité de votre choix, que ce soit en Afrique ou ailleurs sur la planète. Vos commentaires, vos analyses, vos témoignages et vos réactions nous intéressent.
33 9 693 693 70.
Namoury Dosso, avec vous au téléphone tout à l'heure, à partir de 8h10 TU.
RFI.
Musique du monde, Laurence Alloire.
Le balafon est au centre de cette émission avec le sorcier multi-instrumentiste français Ross Hughes pour son album No Falabé, c'est balafon lu à l'envers, et le groupe franco-burkinabé Kananaye qui s'empare du grand studio pour la session live. Kananaye signifie « c'est pas facile », sous-entendu, mais ça va aller. C'est un peu ce que disent tous les musiciens quand ils viennent dans cette émission.
Musique du monde, Laurence Alloire.
Samedi, à partir de 20h10 TU.
RFI.
La chaîne WhatsApp de RFI compte désormais 2 millions d'abonnés.
Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter sur votre téléphone nos résumés de l'actualité internationale, nos analyses et notre sélection des meilleures émissions de RFI.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple. Allez vite sur l'onglet Actu de votre application et venez rejoindre la communauté WhatsApp de RFI.